Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'œil de Sab. Il y a des regards qui se forgent dans l'ombre avant de briller sous la lumière et je peux vous dire que mon invité de ce soir a passé sa vie à observer, à comprendre et à chercher sa juste place avant de choisir la scène pour faire rire. Aujourd'hui, il partage avec nous un humour drôle, vif et toujours très juste. Ce soir, nous allons lever le rideau sur l'homme derrière l'humoriste. J'ai le grand plaisir de recevoir Raphaël Cohen. Bonsoir Raphaël.
Salut Sab.
Merci d'être avec nous.
Très heureux d'être là, merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir, vraiment. Raphaël, avant de revenir sur votre parcours, parlons un peu de vous aujourd'hui et de votre rapport à la scène. Alors, on sait que vous montez très régulièrement sur scène dans plusieurs comédies, clubs. Vous travaillez vos textes, on en parlera justement dans un instant. Vous partagez votre humour avec le public et je peux vous dire que le public rit aux éclats. Alors là, j'ai eu un grand retour là-dessus. Et surtout, vous êtes aussi particulièrement à l'aise en improvisation. Pour commencer, où peut-on vous voir en ce moment ?
Alors, j'ai la chance d'être artiste résident au Garage Comedy Club, vers le cours Julien à Marseille. Super Comedy Club, allez-y vraiment. Je joue aussi à La Grange, vers Castellane. Au Vigs de temps en temps, également à la place des Canailles, et parfois dans plein de petits plateaux, dans des bars, des restos, des rooftops à Marseille, parce qu'en ce moment il se passe plein de choses autour du stand-up à Marseille et j'ai la chance d'en faire partie.
Quand vous montez sur scène, qu'est-ce qui se passe en premier dans votre tête ?
J'essaie de faire le vide pour être le plus présent possible. Parce que c'est avant tout être présent, le stand-up. C'est un peu paradoxal parce que souvent on a déjà préparé des blagues, on a déjà des textes qui ont été travaillés, mais le but c'est d'être au contact direct des gens, de leur partager quelque chose, d'être dans le présent. Donc avant de monter sur scène, en général, il y a quelques petites respirations, j'essaye de bouger un petit peu, de danser, de m'amuser, de rigoler, de me dire dans ma tête, je suis présent, je suis là, j'existe et je vais être avec des gens avec qui je vais partager quelque chose.
Mais justement, alors vous préparez en amont vos textes, mais comment on choisit en fait ce qu'on va raconter ?
Eh ben, j'ai presque envie de dire que c'est ce qu'on va raconter qui nous choisit. Hein. En vrai, moi souvent, les moments où j'ai écrit, ça a été un peu des fulgurances le soir. C'est la vie qui nourrit l'écriture. À chaque fois que j'essaye de me poser avec mon ordi pour me dire « aujourd'hui j'écris des blagues », j'y arrive jamais.
Alors vous attendez voilà que l'inspiration vient.
Voilà, l'inspiration vient, des fois c'est en marchant, des fois c'est tout d'un coup je suis dans la terrasse d'un café, j'entends une discussion autour de moi et je me dis putain mais ça c'est trop drôle et ça je le note ou je l'enregistre sur mon téléphone et après il y a un moment où je retravaille ce que j'ai écrit. En général c'est ça. En général, il y a toujours des pistes de réflexion, elles arrivent en direct et vite je les note. Ou des fois j'ai une pensée comme ça, vite je la note, ou j'ai une discussion avec quelqu'un, avec un ami qui me dit une connerie, un truc, et je me dis ça, faut que j'en parle sur scène. Et ensuite je reviens dessus et j'essaie d'affiner et d'écrire des blagues.
Alors du coup c'est vraiment le quotidien en fait,
ouais.
Le quotidien qui nourrit directement vos textes.
Totalement.
Et comment testez-vous vos blagues ?
Eh bien, des fois je les teste sur des amis. sinon, souvent, le crash test, c'est la scène. Hein.
C'est
la
ça.
Scène, c'est la scène, ouais.
Mais oui, mais par exemple, imaginez que si vous êtes sur scène et la blague ne fonctionne pas, ouais. Que se passe-t-il ?
Ça arrive, et ben faut désamorcer. On dit, ben voilà, là, il y a encore du boulot, ou cette fois-ci, je la jette à la poubelle. Et en fait, tant qu'il y a de la complicité avec le public, tant qu'on est capable de désamorcer et de montrer qu'en fait, on n'est pas gêné par son propre échec, et ben le public apprécie et n'est pas gêné. En fait, le bide, ce qu'on appelle le bide dans le stand-up, il arrive uniquement si le stand-upper lui-même est gêné de son entre guillemets échec. Mais si on sort de ce cadre de la performance et qu'on est juste, attends, c'est humain, je rigole, je teste des trucs et de toute façon, c'est pas que la blague, c'est une totalité. Et ben en fait, ça passe. Mais ça se travaille, des fois on prend des claques, hein. Moi ça fait 3 ans et demi que je fais du stand-up, là en ce moment ça marche plutôt bien mais j'ai pris des claques aussi et ça fait partie du métier. Ouais, totalement.
Mais est-ce qu'on a quand même le trac ?
Ouais.
Oui, quand même.
De moins en moins, parce qu'il y a de l'expérience qui s'accumule et que en fait moi je travaille sur mon stress parce que j'étais quelqu'un de très stressé et du coup je le suis de moins en moins parce que je mets en place des choses, mais il y a toujours un peu d'appréhension. Et je pense que c'est sain parce que ça veut dire qu'on prend ça au sérieux aussi. Je pense qu'il faut se... En fait, il faut se préparer à être détendu. Donc, la préparation, c'est finalement se détendre.
Tu vois ce que je veux dire ? Le petit rituel, alors. Le petit rituel préparation pour se détendre.
Petite respiration, bouger, danser.
Ce que vous avez dit tout à l'heure.
Voilà. Moi, j'aime bien danser. J'aime bien taper des barres aussi avec les humoristes qui sont avec moi le soir-là. Regarder les humoristes qui sont avant moi et rigoler. Et puis, ouais, on respire un grand coup. Et puis on y va et on se dit... Là, je vais tout donner pour eux.
Alors là, vous parlez vos collègues,
ouais.
Donc de vos collègues. Est-ce que justement, il y a vraiment une très belle énergie, vous entraidez, ou sinon, est-ce qu'il y a une petite compétition entre vous?
Franchement, ça dépend. Je vais être honnête avec toi. Il y a des soirs, il y a de l'alchimie parce que les gens avec qui tu bosses, tu t'entends bien avec eux, tu les connais déjà. Il y a des affinités. Dans ce cas-là, en général, c'est les meilleures soirées. Parfois, écoute, c'est un petit peu plus distant, mais c'est pas forcément qu'il y a de l'animosité ou quoi, c'est juste que chacun est dans son truc, c'est un petit peu individualiste. Parfois, le stand-up, tu arrives, tu fais ton truc, tu pars. Donc, ça dépend des fois. Ça dépend
pas
des
de rivalité.
Ah, y a toujours des petites concurrences, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Y a de plus en plus de monde qui veut faire du stand-up, surtout en tant que mec. Surtout quand on a les cheveux longs comme moi, il y en a plein. Mais en fait, on essaie de s'aider quand même. Et on essaie de s'aider parce que, c'est dans l'intérêt de tout le monde que le stand-up se démocratise et soit... En fait, quand un pote à toi fonctionne, c'est le stand-up qui gagne et donc du coup, pour toi aussi. Donc voilà, on essaie de d'être solidaire, ouais.
Quelle place occupe l'improvisation dans votre travail ?
Alors, je t'avoue qu'au début, moi, j'étais pas... à fond là-dedans. J'étais pas forcément hyper à l'aise là-dedans. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je trouvais beaucoup de plaisir à parler aux gens, à échanger et puis à laisser entrer justement du présent, de l'imprévu. Et c'est ça le stand-up, c'est arriver à faire entrer du présent, de l'imprévu. Donc de plus en plus, une place de plus en plus importante.
Est-ce que peut-on dire que l'improvisation, c'est un challenge ?
Ouais. C'est... C'est un challenge, mais souvent, c'est là que tu prends le plus de plaisir. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de trouver des blagues sur scène, sur le moment, dans des états un peu de grâce où justement je suis complètement libéré. Et c'est les meilleurs moments en tant qu'artiste de stand-up, c'est quand ça se passe comme ça. C'est pas tous les jours, mais c'est pas tous les soirs, mais quand ça arrive, tu comprends pourquoi tu fais ça, quoi.
Est-ce que la scène vous a permis de mieux vous connaître ?
Oui, oui, bien sûr. Oui, totalement. C'est un parce que tu te rends compte de comment les gens te perçoivent, ce que tu savais pas forcément à la base.
Alors du coup, comment on vous perçoit ?
Eh ben, un peu un espèce de fou lettré, on va dire, mi fou mi lettré, tu vois, un peu le délire. C'est vraiment une thérapie presque. Le stand-up, tu vois. T'en apprends beaucoup sur toi, sur... quand t'écris aussi, ouais, il y a une part d'introspection. Puis même quand tu parles des autres, tu te comprends à travers les autres aussi. Donc, réponse totalement positive.
Y a-t-il un moment où vous êtes dit « Je suis vraiment à ma place, là ».
Waouh ! Alors ça, c'est la meilleure question parce que c'est rare que je me suis senti à ma place dans ma vie. Je te mens pas. Et à la base, le stand-up, ça m'intéressait pas tant que ça.
Et oui.
Mais voilà.
Et bien justement, par rapport à ce que vous venez de dire, on va en parler dans un instant. D'accord ? Qu'est-ce que vous ressentez en sortant de scène ?
Beaucoup de, en général, de joie. Quand ça s'est bien passé, en tout cas. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est quand je vois que les gens ils sortent avec un visage plus ouvert que celui avec lequel ils sont arrivés. Et là, tu te dis, ça a du sens ce que je fais. J'ai fait rire des gens, je les ai détendus. Tu vois qui sont dans leurs yeux qu'il y a de la gratitude. Dans ces moments-là, tu ressens beaucoup de joie. Après, des fois, c'est moins le cas. Le stand-up, ça dépend vraiment des soirs.
Quelle salle de spectacle aimerez-vous un jour jouer ?
Waouh ! Allez, on va être ambitieux, on va dire le Silo.
Et hors Marseille ?
Hors Marseille. Tu sais, j'y ai jamais pensé. J'y ai jamais pensé, en fait. Mais
on se dit pas Olympia, Olympia.
Oui, on se dit Olympia. Mm. On se dit Olympia. C'est pas très réaliste pour l'instant, mais on se dit Olympia, ouais.
On sait jamais. Que souhaitez-vous que le public retienne après, après vous avoir vu?
Que se détacher de certains problèmes futiles liés à l'ego, c'est libérateur et ça vaut le coup. Que la vie vaut la peine d'être vécue de manière curieuse et explorative. Voilà.
Oh. Dans un instant, nous prendrons le temps de découvrir votre histoire et la manière dont vos expériences ont construit l'humoriste et l'homme que vous êtes aujourd'hui. Mais avant cela, je vous propose une courte pause musicale.
A Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané. Llego a Puerto voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Para Marcané.
la cuenta voy para Mayarín.
Raphaël Cohen, en trois mots, ça donnerait quoi ?
Curieux, fou, s'adapte.
Fermez les yeux un instant, s'il vous plaît. Si vous pouviez remonter le temps et donner un petit conseil à l'enfant que vous étiez, lequel serait-il ?
De faire confiance au processus, de pas trop s'angoisser et de s'écouter plus.
Oh. Bah, pour comprendre tout ça, ce qu'on va faire, on va faire vraiment un petit tour. Dans le passé, vous êtes né à Meaux, mais vous avez grandi dans le quartier de Belleville, à Paris.
Ouais.
C'était bien. Vous vous rappelez un peu ?
Je m'en rappelle un peu, j'en garde des bons souvenirs. beaucoup de diversité, ouais, une bonne ambiance. Je jouais beaucoup au foot dans la rue, ça je m'en souviens.
Quel genre d'enfant étiez-vous ?
J'étais un enfant très bavard, très curieux, qui posait tout le temps des questions. Ouais, avec des grands yeux grands ouverts, tout le temps.
Alors là, on va rester dans le quartier de Belleville. Quelle était l'ambiance familiale à la maison ?
Une ambiance un petit peu artistique, créative. Un peu le bordel. Un peu un bordel artistique avec mon père qui avait tout arrêté pour se lancer dans le théâtre. Voilà, ma mère qui faisait de la photo tout en étant prof d'histoire à mi-temps. Beaucoup de musique, beaucoup de... Voilà, une folie un peu douce, beaucoup de liberté. Un peu, voilà, un joyeux bordel.
Et quels principes vos parents vous ont transmis et qui vous guident encore aujourd'hui ?
Alors là, ouais. Mes parents m'ont transmis que l'argent n'était pas une valeur. Ils m'ont transmis le fait d'être... de faire attention à la beauté de la nature. Ça, c'est ma mère qui m'a transmis ça. D'être toujours... on va dire ouvert à l'autre.
Et votre histoire familiale est marquée par des parcours très forts.
Ouais. Mon père a grandi à Créteil, en banlieue parisienne, dans un milieu assez modeste, avec un contexte familial assez complexe. Il est devenu prof de français, puis après il a tout arrêté pour se lancer dans le théâtre. Donc, finalement, il y a une forme d'hérédité là-dedans, parce que moi aujourd'hui la scène c'est là où je trouve ma place.
Mais c'est incroyable.
Ouais, alors que j'aurais jamais
pensé. Vous prenez
pensé...
le même chemin que votre
je
papa.
Je reprends le même chemin que mon papa finalement, alors que je voulais pas, mais finalement c'est comme ça que ça se passe et il n'y a pas de hasard. J'ai l'impression que je continue un petit peu son œuvre d'une certaine manière et je pense qu'il est super content de ça et moi aussi. Et ma mère aussi, un profil un peu artiste. Ils ont souvent arrêté des choses pour se lancer dans des trucs, ils ont pris des risques. Que je respecte énormément, même si parfois, du coup, l'enfance était un peu chaotique.
Et si on parlait un petit peu de vos grands-parents ?
Ouais. Alors, du côté de la famille de mon père, ma grand-mère est rescapée de la Shoah. En fait, elle a été sauvée par une infirmière pendant la guerre. En fait, elle était déportée dans un camp de transit à Drancy. Elle avait 2 ans avec sa mère. Et en fait, elle est tombée malade et elle a été mise dans un hôpital pour bébés juifs. Il y avait des rafles dans ces hôpitaux-là. Et en fait, elle a été cachée dans un parc. Et finalement, elle a été envoyée en Bretagne où sa tante vivait avec un homme qui n'était pas juif. Et du coup, ils étaient un petit peu protégés. Donc, une histoire très, très lourde. J'admire énormément ma grand-mère pour ça. Elle s'est toujours battue malgré... Voilà, en fait, toute sa famille a été assassinée, hein, clairement. C'est la seule survivante quasiment de cette famille.
Est-ce que justement, par rapport à son histoire, est-ce que ça vous a influencé de voir le monde d'une autre manière ?
C'est vrai que... Il y a un petit peu ce... Comment dire Déjà, enfant, quand t'apprends ça, je t'avoue, ça t'angoisse un peu. De base.
Moi, on se rend compte quand même de tout ça en tant qu'enfant ?
Ouais, je sais pas. En fait, moi, mon père me l'a dit très jeune. À 4 ans, dans la cuisine, il m'a expliqué ce que c'était que les camps de concentration. C'était peut-être un peu jeune. Il y a un peu ce truc quand même de, tu vois, une lourdeur de cet héritage. Peut-être je m'en serais bien passé, mais d'un autre côté, ça me constitue. Ça te rend mature assez vite, peut-être ? Je sais pas. Et le fait aussi de pas avoir, tu vois, d'avoir des racines diverses, parce que du coup, donc je suis juif du côté de mon père, mais moitié tunisien, moitié polonais. Du côté de ma mère, c'est des origines franco-italiennes et mauriciennes. Donc tu vois, j'ai même des ancêtres qui étaient indiens. Donc si tu veux, cette espèce de melting pot, de patchwork, fait que je me sens à la fois chez moi partout et chez moi nulle part, un petit peu. Mais du coup, ça donne un côté, du coup, un regard distant. Tu vois, quand t'es tout le temps un peu un intrus, du coup, t'observes. Et tu prends du recul par rapport à, tu vois, t'es pas forcément... Moi, je me sens pas juste ci ou juste ça, je me sens plein de choses. Et du coup, je suis souvent dans l'observation et je pense que ça a nourri mon parcours et mon stand-up aujourd'hui.
Et votre grand-père,
Ouais. Mon grand-père, Jackie Jacob Cohen, paix à son âme, qui est décédé il y a maintenant 3 ans. J'étais très proche de lui. Il est né pendant les bombardements en Tunisie, en 41. Il souffrait d'une maladie mentale. J'allais dire il était schizophrène, mais en fait, il ne se réduisait pas à ça. Je pense pas qu'il faille... comme ça, apposer un diagnostic sur des gens, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, il souffrait de schizophrénie. C'était quelqu'un d'extrêmement drôle, d'extrêmement intelligent, qui m'a confronté, en fait, très tôt à l'altérité. Parce que mon père a toujours voulu quand même que je le voie malgré son état, et parce que parfois, c'est des délires, c'est de l'incohérence, c'est peut-être de la violence. Mais en fait, très tôt, mon père il m'a mis dans les bras de mon grand-père, en fait, et avec qui j'ai eu une super relation. Tiens, je vais te raconter une anecdote. Ça, j'ai raconté à personne. Des fois, mon grand-père me gardait, tu vois. Et mon grand-père, il avait des accès de délire, tu vois, dû à sa maladie, mais qui était plutôt positif. Enfin, tu vois, c'était pas de l'agressivité, mais il allait appeler tous les numéros de son répertoire pour que je parle avec eux, alors que moi j'avais 4 ans, tu vois. Et fallait que je dise des insultes, tu vois. Mais c'était pas vraiment des insultes, c'était PDG. Et il fallait que je dise sale PDG à un ami à lui qui n'était pas du tout PDG, mais qui dans son délire était PDG, tu vois. Et on passait la nuit à téléphoner à ses copains de l'hôpital psychiatrique et à avoir des discussions complètement lunaires. Moi, j'avais 4-5 ans et je me tapais des barres. Et à la fois, j'étais impressionné. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un autre côté, je voyais mon grand-père et je me disais, en fait, je jouais avec lui, en fait. Et je trouvais ça très drôle. Donc, ouais, il m'a très vite confronté à, ok, il y a des gens qui sont différents. C'est ok d'être différent. Il y a de la folie dans ce monde, quoi, tu vois.
C'est incroyable. Ouais. Alors, du coup, il vous donnait son téléphone, le téléphone.
C'était le téléphone
là,
fixe.
Ça, le PDG.
Voilà, c'est ça. C'était, alors, c'était son ami qui s'appelait Richard. Et il me disait, Raphaël, dis à Richard, ça, le PDG. Ça, le PDG. Il me disait de dire des insultes. Je sais plus ce que je disais. Moi, j'étais là, allô, Richard, avec ma petite voix d'enfant et tout, tu vois. Et j'avais à la fois un peu peur et en même temps, j'étais fasciné par le personnage de mon grand-père. Qui me cuisinait des choses absolument improbables. Il inventait des recettes et c'était bon en plus, tu vois. Ouais, cette folie de mon grand-père, ça m'a beaucoup touché en fait, toute mon enfance. Et en même temps, c'était parfois aussi lourd à porter, tu vois.
Y a-t-il un autre souvenir d'enfance qui vous a marqué?
Waouh, il y en a plein, hein. On a plein, c'est dur de choisir. Là, tu vois, c'est vrai que c'est un pépite.
J'adore.
Souvenir d'enfance qui m'a marqué.
Ou peut-être, si vous pouviez revivre une journée de votre enfance, laquelle serait-ce?
Allez. La première journée où j'ai joué au foot dans un parc et où j'étais totalement dans ce présent, ce soleil, ce bonheur de courir. Parce que moi, tu vois, j'étais beaucoup dans la tête. Tu vois, j'ai appris à parler à 1 an et demi, tu vois. Je parlais déjà bien. J'ai appris à lire presque avant d'apprendre à marcher, tu vois ce que je veux dire. J'étais un enfant mémoire,
précoce.
Moi. Précoce, ouais. J'étais un enfant dans le langage, dans la mémoire et tout. Et du coup, le fait de trouver le corps, ça a été hyper important pour m'équilibrer. Et du coup, c'est passé par le foot dans mon enfance. J'allais jouer au parc de la Villette, au parc de Belleville, au parc des Buttes-Chaumont, dans ma résidence un peu HLM où je vivais à Belleville, où il y avait une sorte de cour où on jouait au foot avec les copains. Et ça m'a beaucoup... ça m'a équilibré, j'en avais besoin. Je garde un très bon souvenir du foot quand j'étais gamin.
Vous êtes encore proche de l'enfant que vous étiez?
Ouais.
Ouais, alors du coup, qu'est-ce qui reste de cette période aujourd'hui?
Ouais, en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours gardé le dialogue avec cet enfant un peu sensible que j'étais. Qu'est-ce qui reste? Il reste une envie de jouer. J'ai toujours aimé jouer. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur scène, parce que je m'amuse. En fait, ouais, un truc un peu farceur, tu vois, et un truc un peu de... on va pas se faire emmerder par les codes des adultes, quoi. À un moment donné, j'ai le droit aussi d'être un enfant, de jouer et de d'avoir un esprit, de pas trop cultiver l'esprit de sérieux.
Après Belleville, Et à un moment donné, bah, votre vie prend un tournant important. Vous arrivez à Marseille.
Ouais.
Et oui, alors comment avez-vous vécu ce changement ?
Eh bien, c'était une aventure d'aller vers le soleil. C'est vrai que moi, je pensais, je pensais que Marseille, c'était un peu un village à la base. Et j'arrive, je vois qu'en fait, c'est une grande ville, un peu comme Paris, mais qu'il y a le soleil, qu'il y a la mer. J'arrive à Noailles, donc grosse ambiance. Et je le vis. Je suis content d'aller dans le sud. C'est encore un déracinement, mais je le vis bien. Après, c'est vrai que c'était des années un peu dures quand même à la maison et tout à cette époque-là. Donc,
pourquoi ? Donc c'est de refaire sa vie en fait, c'est ouais. de refaire une nouvelle vie. Votre papa à la base il est comédien sur ouais. Paris, faudrait... donc là il arrive sur Marseille, avec avec votre maman. Il faut refaire un nouveau carnet d'adresses, j'imagine.
Totalement, mon père galère pas mal à ce moment-là professionnellement. Il avait un bon réseau à Paris qu'il avait difficilement mis en place, mais ça commençait à bien marcher pour lui le théâtre à Paris. Mais ma mère en pouvait plus de Paris, donc on va dans le sud, mon père la suit. Et mon père aime pas trop Marseille quand il arrive. Et je me souviens qu'il y a... Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un peu dur à la maison à ce moment-là. Mais en même temps, il y avait toujours des espaces de joie, de respiration. Et moi, j'étais un peu un enfant livré à moi-même, tu vois. C'est-à-dire que mes parents, ils m'ont toujours... J'allais à l'école tout seul dès la primaire, tu vois. À pied, même si c'était à une demi-heure à pied, tu vois. Et à 8 ans, j'allais à l'école tout seul, tu vois. Et du coup, cette liberté-là, elle m'a fait un peu apprendre la vie très vite, tu vois, à la fois dans des choses dures et des choses cool.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez quoi, vous connaissez la rue ?
Un peu. Ouais, franchement, bah moi, tu vois, j'ai quand même, alors on dirait pas comme ça avec le profil que j'ai aujourd'hui, mais j'ai grandi à Noailles. C'était le foot dans les quartiers nord le dimanche matin, c'était des bagarres, c'était des vols, j'ai vu des choses de fou. Moi, on dirait pas comme ça. Moi, j'ai vu des attaques au couteau à 8 ans, mais je te jure que c'est vrai. Je me suis battu. J'ai fait des bagarres générales de fous avec des gens qui te tapent avec des cadenas dans le 14e un dimanche matin à 8h. J'ai connu ça, tu vois. J'ai connu même moi à une époque, je file un peu un mauvais coton, tu vois. J'ai toujours été le gentil, mais je me faisais influencer, tu vois. Et donc,
Influencer jusqu'où ?
Influencer jusqu'où, je sais pas si je peux dire ça à l'antenne, hein, mais une fois, on devait avoir peut-être 10 ans, on a cassé la vie d'une voiture pour voler un sac. Oh. Ça, c'est le max que j'ai fait en termes de banditisme. Mais moi, j'étais un peu effrayé de tout ça. Moi, j'ai clairement pas ce profil-là, mais comme en fait, je m'adaptais. En fait, ça, tu vois, genre, en vrai, je regrette pas d'avoir vécu tout ça. Parce que du coup, ça m'a donné une expérience. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais pas vraiment à ma place. Parce que moi, j'étais plutôt un gentil, quoi.
Un gentil. Mais qu'est-ce que la rue vous a appris ?
Qu'est-ce que la rue m'a appris ? Déjà, la rue m'a appris qu'il faut parler à tout le monde. La rue m'a appris que pour se faire respecter, il faut pas se laisser faire. La rue m'a appris qu'il faut pas juger les gens à leur apparence, en fait. En fait, il y a des trésors insoupçonnés. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des amis qui ont été plus dans un cadre conformiste et bourgeois, qui ont été plus couvés par leurs parents et qui ont moins eu peut-être cette ouverture un peu radicale que mes parents m'ont offerte. Et parfois, je sens qu'ils ont des préjugés sur certaines personnes. Moi, le fait d'avoir rencontré très vite un panel de gens incroyables.
En fait, j'ai l'impression, quand je vous écoute, ouais. Vous avez jonglé
ouais.
entre plusieurs univers.
J'ai jonglé entre plusieurs univers. À la fois, on va dire, classe moyenne de grande ville plutôt blanche. À la fois, tu vois, à Noailles, la plupart de mes potes, moi, je restais avec des rebeux, des blacks. Enfin, c'était vraiment ça... La plupart de mes amis, tu vois, étaient
des personnes racisées. Du coup, vous étiez quoi ?
Moi, j'étais en fait, à une époque, on me prenait pour un rebeu. Et ouais. Même, ça m'est arrivé à une époque, tu vois, parce que vu que j'étais un peu le seul blanc, je voulais m'intégrer, tu vois. Ça m'est même arrivé. Enfin, tu vois, moi, je disais Walla et tout quand j'étais petit, tu vois. C'est ce que je veux dire. Mais bon, après, ça n'a pas duré très longtemps. Mais j'étais j'étais intégré finalement, plus ou moins. Il n'y avait pas de souci avec ça. Tu sais, en plus, quand t'es enfant, en fait, tu grandis.
On fait pas attention à ça.
Mais du coup, c'était. Ouais, j'ai navigué à la fois entre quartier populaire, classe moyenne, et puis ensuite, bien plus tard, moi, j'ai été dans les beaux quartiers, tu vois.
Et ben, on va en parler si vous voulez. Mais d'abord, quel élève étiez-vous ?
J'étais un élève qui avait des facilités, mais qui voulait pas trop le montrer parce que fallait la street cred de, tu vois, la street cred de l'époque, de fallait que je montre que j'étais pas un enfant sage.
Alors du coup, pour être admis par les autres, par les autres élèves, alors on fait c'est semblant d'avoir des mauvaises notes.
Ouais mais je te jure que c'est vrai,
en sachant que vous étiez extrêmement doué.
Ouais, je faisais exprès de pas avoir des très bonnes notes. Je faisais exprès de faire des petites bêtises aussi pour être intégré, pour être normal. Parce qu'en fait, justement, le fait que j'avais des facilités et que, tu sais, moi, j'ai appris à lire tout seul, c'était un délire. À la maison, il y avait des livres d'histoire que je lisais à 5 ans. Ça n'avait aucun sens, tu vois. J'avais un peu une culture G et tout dès le plus jeune âge. Et en fait, j'étais un peu en décalage avec les gens. Genre, tu vois, je m'intéressais à la philosophie à 8 ans. Ça n'a aucun sens, tu vois. Genre, c'est trop bizarre. Bon, après, j'étais un enfant quand même, tu vois. Mais j'étais... sauf que c'était pas... Tu vois, je voulais pas être ostracisé, tu vois. Je voulais pas être mis de côté par rapport à ça. Parce que je voulais être avec les gens. Je voulais avoir des amis, tu vois. J'étais sociable. J'étais pas le nerd avec les lunettes, au fond. Je voulais surtout pas être... On disait un paillot, tu vois. Je voulais surtout pas être un paillot. Donc, du coup, ben, je travaillais pas trop à l'école. Après, j'avais quand même des bonnes notes, hein. Mais... je faisais en sorte de ne pas être le premier de la classe et d'être un peu avec les cancres pour être un vrai mec, tu vois.
Oh là là. Et qu'avez-vous le plus appris à l'école en dehors des matières courantes ?
Waouh. Ce que j'ai appris à l'école, c'est les dynamiques de groupe qui parfois ne sont pas très belles à voir. J'ai appris des choses sur l'être humain.
C'est-à-dire ?
Ben écoute, tu vois, j'en suis pas très fier, mais cette tendance qu'on a au collège à se rassurer par le groupe en excluant les autres qui sont différents, qui sont moins adaptés, qui sont, tu vois, vus comme étant plus faibles, pas plus faibles en soi, ça, tu vois, je trouve que c'est un monde cruel, hein, le collège. C'est un monde cruel. Moi, je m'en suis sorti par lâcheté en étant pas du côté de ceux qui étaient victimisés, mais c'était toujours la corde raide. Et en fait, ça te marque. Mais c'est une expérience. Et puis après, on...
Est-ce que vous avez ressenti la même chose au lycée ?
Moins au lycée. Au lycée, en fait... j'ai fait 3 lycées en 3 ans, 3 lycées différents, donc encore une fois, pareil, s'adapter toujours. La seconde était un peu dure, mais après, j'ai été dans des lycées privés à partir de la première. J'ai fait ma première et ma terminale dans des lycées privés catholiques à Marseille, dont le dernier est considéré comme le meilleur lycée de Marseille et l'un des, je pense, dans les 20 meilleurs lycées de France, tu vois.
Vous nous rappelez le nom ?
Lycée de Provence. Mmh. Et là, ça a été... encore un nouveau monde. J'ai découvert que ça pouvait être le silence en classe et que c'était pas forcément que c'était bien vu d'être un bon élève, tu vois, en quelque sorte. C'était un univers plus apaisé, plus pacifié, mais en même temps j'étais pas vraiment à ma place dans cet endroit là non plus, parce que j'étais tu vois, moi, j'étais dans un entre-deux, quoi. J'étais à la fois pas vraiment à ma place quand j'étais dans les quartiers un peu qui craignaient, et pas vraiment à ma place là non plus, parce que eux, c'était des gens qui avaient été privilégiés toute leur vie. Et ils étaient très gentils avec moi en soi. J'étais plutôt bien intégré, mais il y avait ce truc de « on sent que t'es pas de notre monde et tu seras jamais de notre monde », même si j'étais invité aux soirées, etc. Mais même moi, je le sens, tu vois, c'est des habitus, comme dit Bourdieu. C'est-à-dire, c'est vraiment comment est-ce que... d'où tu viens, quoi. Ça se sent dans le corps, dans la manière d'être, dans la manière de parler. Mais moi, je me suis toujours adapté. Et ça a été hyper intéressant de voir aussi, du coup, cet autre monde, d'aller dans des maisons incroyables. Et en soi, je l'ai plutôt bien vécu quand même sur le moment.
Vous êtes un vrai caméléon.
Et ça sera le titre de mon spectacle qui aura lieu à partir de septembre de façon mensuelle à la Grange Comédie. Parfaite transition, merci Sab.
Et bang, une petite pub, vous avez raison. Alors après le lycée, vous prenez une direction très exigeante.
Ouais, là pour le coup, le Raphaël qui, enfant, avait honte de ses capacités intellectuelles et cherchait à les masquer, décide de faire une prépa littéraire au lycée Thiers, Cagne Hippocagne, spécialité philosophie, excusez-moi du peu. Et là, c'est ah ouais, en fait, là, j'ai une effervescence dans le cerveau, mais c'est trop. C'est trop. Parce que c'est un milieu qui est quand même assez disciplinaire. Et moi, j'étais pas trop là-dedans. J'étais plutôt. Moi, j'avais besoin de vivre une vie d'ado normale, tu vois. J'avais 17 ans à l'époque, j'ai eu mon bac à 17 ans. Et en fait, j'étais à la fois passionné par ce que j'apprenais. Et en même temps, je me sentais oppressé par ce système-là. Avec parfois des comportements de profs assez coercitifs, assez violents.
Il y a des profs qui vous ont marqué ?
Ouais, à la fois en bien, des profs qui m'ont marqué en bien, d'autres en moins bien, je te cache pas.
Alors donnez-nous justement un exemple pour le bien et l'autre pour le mal.
Un exemple pour le bien, c'est vraiment, tu vois, l'exigence et l'ouverture... de ma prof de philo, de mes profs de philo qui vraiment m'ont ouvert l'esprit, même des profs de lettres où il y avait vraiment un goût, un plaisir, tu vois, dans le fait de transmettre. Et d'autres où il y avait un peu ce truc de c'était l'armée en fait. C'était l'armée, sauf que la relation pédagogique c'est un lien et pour qu'il y ait une transmission, il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de plaisir à transmettre et que c'est juste on veut te bourrer le crâne. Et qu'on te considère comme un petit soldat, ben en fait ça marche pas. Et moi il y a eu des, c'est pour ça que j'ai pas supporté la prépa. J'ai quand même fait mes 2 années, mais après j'ai pété un câble et je suis parti.
Vous êtes parti, mais est-ce... Ouais. Mais ok, vous avez pété un câble, est-ce qu'il y a eu un échec quelque part?
Un peu. Alors, j'avais quand même plutôt des résultats tout à fait corrects, mais je crois que j'étais hyper stressé par justement cet environnement-là et la pression que ça me mettait. J'étais trop jeune pour ça. J'étais très angoissé de mon avenir à l'époque. Et j'avais du mal avec ce cadre-là. Je pense que c'était trop dur pour moi de performer dans toutes les matières, tu vois. J'étais devenu stressé. En fait, autant la première année s'est très bien passé, la deuxième année, ouais, j'y arrivais plus parce que j'avais envie de... Je me souviens un jour, j'étais en examen blanc parce qu'on avait tout le temps des examens blancs, même le samedi, tu vois. C'était des semaines de fou, tu vois. Tu voyais pas la lumière du jour. Et en fait, à un moment donné, je faisais une version en grec ancien. Je devais traduire un texte de Platon en grec ancien. Oh. J'étais nul, hein. je te mens pas, j'étais nul, j'adorais mais j'étais nul. Enfin, j'adorais pas du coup, mais j'adorais Platon, mais j'étais nul, enfin bref. Et je me souviens, on était dans des salles immenses, on était 70 à plancher sur nos versions de grec ancien. Et je voyais le soleil par la fenêtre et je me suis dit, mais attends, là t'as 18 ans, qu'est-ce que tu fous là quoi? Va courir dehors, en fait tu peux pas être privé de soleil et de vie. Tu vois, c'est trop important. Donc j'ai pris, je regrette pas du tout d'avoir fait cette prépa qui m'a appris plein de choses, qui m'a donné une culture générale, qui m'a appris des méthodes de travail. Mais à un moment donné, ça forme des gens qui sont un peu trop gris. Tu vois, ça forme des gens qui sont des petits soldats. Et moi, j'avais ce besoin de soleil et d'épanouissement corporel, de jouer, de faire du sport et tout. J'étais en mauvaise santé en fait. J'étais en très mauvaise santé à cette époque. J'avais même développé une maladie et tout.
Mauvaise santé. Est-ce que c'est pas psychologique tout ça? Et du coup, on se développe.
Totalement. Psychosomatique.
Et ouais. Ouais. Et à un moment donné, vous avez dit, bah, après, je suis parti. Mais vous êtes parti où?
Je suis parti au Guatemala. Je suis parti au Guatemala, tu vois, j'ai eu besoin de mettre un océan entre les classes prépa et moi, quoi. Tu vois.
Vous avez pris votre billet,
ouais,
votre billet
d'avion. J'ai bossé dans un resto tout l'été, je me suis payé mon billet et je suis parti à 19 ans au Guatemala du jour au lendemain. Je suis arrivé, voilà, et là, ça m'a sauvé parce que j'étais vraiment en dépression. Quand je te dis en dépression, énervé, quoi, tu vois. Et en fait... ça a été la meilleure décision de ma vie parce que là, j'ai. Ben, en fait, comme une. Je me suis épanoui de nouveau, tout simplement.
Vous avez fait de nouvelles rencontres
Plein de rencontres. J'ai bossé, j'ai été prof de français dans des quartiers d'une ville qui s'appelait Ciudad Vieja, dans la banlieue d'Antigua. J'étais prof de français, prof de sport, tu vois. Dans le cadre d'une ONG, d'un programme, en fait, où. En gros, ça s'appelait. En fait, c'est pendant les vacances là-bas, souvent les enfants ils travaillent avec leurs parents. Et là, l'idée c'était. En fait, ils ont l'école gratuite avec la nourriture gratuite et des intervenants extérieurs qui viennent d'autres pays. Et au moins, les parents les laissent là et ne les obligent pas à travailler, tu vois, pendant les vacances. Super bonne expérience. J'ai rencontré plein de gens. Et puis, j'étais aussi un peu dans un délire un peu. De vagabond. C'est pour ça que la première chanson que j'ai mise, tu vois, c'était El Vagabundo de Héctor Lavoe. À la fois l'Amérique latine et le côté voyageur, vagabond. Je me suis retrouvé dans des villages perchés, complètement perdu. J'étais un peu anthropologue, tu vois. J'écrivais dans mon carnet un peu des récits de voyage, j'observais. J'étais un peu en dehors des sentiers battus, tu vois. Je restais un jeune backpacker, mais j'étais beaucoup dans un voyage presque anthropologique, tu vois, c'était vraiment mon idée, c'était d'explorer des endroits complètement perdus, d'aller chez l'habitant. Et ça,
et en même temps, vous travaillez, et je trouve ça très bien, en fait. Vous n'êtes pas dit, bon, allez, moi, je voyage vraiment peut-être plusieurs ou une année sabbatique, je ne sais pas, mais ouais. Vous décidez quand même de gagner votre vie en même temps.
Ça se fait un peu comme ça. Je t'avoue, je suis parti 12 mois. Et j'ai travaillé peut-être 3 ou 4 mois sur ces 12 mois. Donc, j'ai quand même beaucoup aussi été juste en vacances, on va dire.
En vacances,
voilà,
oui.
Et c'était très bien. Mais ça s'est fait comme ça. Ça a été des rencontres. En fait, je suis arrivé dans un espèce de... C'était des familles qui louaient des chambres. Et en fait, il y avait des jeunes Hollandais dans la chambre d'à côté de moi qui venaient de trouver ce truc dans l'ONG. Ils m'ont proposé. J'ai dit, ben banco, allons-y. Ensuite, j'ai rencontré un peu plus tard un journaliste avec qui j'ai sympathisé, je lui faisais lire mes textes, il était là, mais attends, il faut que tu écrives pour mon journal et tout, c'est un journal en ligne à l'époque qui s'appelait Voyageurs du Net, et il m'a envoyé en reportage à Quetzaltenango et dans des villages mayas un peu reculés, San Andrés de Tchécoul et enfin, d'autres villages, et en fait, il m'a proposé de bosser un peu avec lui, mais c'était vraiment des petites missions comme ça, et financièrement, c'est pas... Enfin, tu vois, aussi, ce que j'ai fait un petit peu, c'est que, vu que j'avais pas trop de sous, des fois, je travaillais dans les auberges de jeunesse, tu vois. J'étais au bar, ça se fait beaucoup, tu vois. Et je payais pas ma chambre en échange. Mais voilà. Mais j'ai aussi beaucoup juste profité, hein. Voyager juste pour le plaisir.
Et après tout ce parcours, vous faites un choix fort. Vous quittez toute cette voie, donc le voyage, les études, etc. Parce qu'à la base, vos études, c'était vraiment une voie toute tracée. Mmh. Vous partez en voyage, et là, je me dis, mais comment le stand-up entre dans votre vie?
Ouais, eh ben, c'est quand même plusieurs années plus tard. Alors, j'avais déjà fait un petit peu de théâtre, des petits stages de théâtre. Même en prépa, tu vois, j'avais fait une option théâtre, et ça m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et puis... J'ai une amie qui s'appelle Vera, je la salue d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui est humoriste également, maintenant productrice aussi de stand-up, qui commence le stand-up au Garage Comédie en 2022, et qui me dit « Raph, faut que tu viennes, c'est fait pour toi ». Je dis « Ok, j'y vais ». Et au début, je suis un peu réticent, tu vois, parce que... je suis là en mode « c'est un peu individualiste, parler de soi, mais à quoi bon ?» à quoi ça sert tout ça finalement. Et puis en fait, je fais ma première scène, je commence à y prendre goût, je me rends compte que c'est vraiment qu'on a besoin de rire, tu vois, dans notre société, et que ça fait du bien aux gens, et que c'est un art populaire et très tu vois, avec un peu de courage tu peux te lancer et ça se passe, tu vois.
Alors je suis d'accord, mais alors pour votre première scène, qu'avez-vous ressenti?
Tu ressens des émotions fortes, hein. Il y a beaucoup d'adrénaline. Quand tu entends tes premiers rires, alors en plus c'était au Garage Comédie, c'était complet. Il y avait 90 personnes, voire 95 personnes dans cette salle, dont les murs font s'entrechoquer les rires, ça résonne, c'est waouh! C'est vraiment, ils sont en train de rigoler parce que je viens de dire ça. Et puis surtout, tu ressens aussi ce truc de waouh, ah ouais, je peux parler de. C'est un moyen d'expression, quoi. Je peux parler de choses qui me touchent et on va m'écouter. Tu vois, moi avant, ça m'arrivait d'écrire des poésies, des récits, etc. Mais en fait, personne ne les lisait. Et puis c'était un rapport un peu indirect, un peu long, tu vois. Alors que le stand-up, tu peux écrire un truc dans la journée et le soir même, tu le partages.
Alors voilà. Du coup, qu'est-ce que donc vous avez écrit dans la journée pour votre première scène?
J'ai écrit sur peut-être sur 2-3 jours. J'ai raconté un petit peu mon enfance à Noailles et j'ai fait une sorte de description humoristique de la Canebière, qui est une avenue. Tu sais, la Canebière, on croit qu'on n'est pas de Marseille, que c'est genre les Champs-Élysées, alors que c'est rien à voir. Tu vois, c'est la cour des miracles, la Canebière. Même le commissariat, c'est une dinguerie, tu vois. Je vois un mec la dernière fois devant le commissariat, tu vois, en mode sortie de boîte. Tu vois, il y a la queue devant, t'as l'impression que c'est la boîte, tu vois. Il était là en mode lunettes de ski, vodka oasis dans la cristalline, il grattait des clopes à tout le monde et tout. C'était un flic en pause.
Non.
Je te jure.
Incroyable.
Tu vois le délire ou pas? Donc voilà, et j'avais envie de, ouais, un petit peu de partager ce truc de. Hey, on est dans une ville de fous quand même, c'est rigolo, non? Voilà.
Qu'est-ce qui vous a fait continuer? Parce que là, vous faites votre première scène, ouais. Et après, vous continuez.
Alors, très honnêtement, j'ai beaucoup hésité. J'ai même arrêté à 2 reprises. C'est les autres qui... j'ai eu cette chance-là, des gens qui sont venus me chercher, en fait. Je me souviens toujours de ce jour-là. J'étais... je venais de prendre un vélo, j'allais prendre un vélo, tu vois, un vélo de la ville, après avoir fait une matinée au marché, parce que je vends aussi des légumes au marché, c'est une autre histoire. Et je croise le patron du garage, je le salue aussi, quelqu'un de très important pour moi, Quentin Friburger, qui était mon enseignant de stand-up la première année, et qui me dit, mais pourquoi t'as arrêté? T'es fait pour ça? Là, il y a un cours ce soir, viens. J'ai dit, ok. Et c'est lui qui m'a relancé. Et en fait, après, ce qui m'a vraiment donné envie de continuer, ça, c'est le plus important, c'est que mon grand-père est décédé, dont je parlais au début, tu vois.
Donc, il y a 3 ans.
Ouais, il y a 3 ans. J'ai eu une grande inspiration d'écriture suite à sa mort, parce que j'avais envie de parler de lui et de le faire exister sur scène, tu vois. C'est ça qui est beau aussi avec le stand-up, c'est que tu fais exister des personnages. C'est presque documentaire, tu vois. Et en fait... j'avais trop envie que mon grand-père continue à vivre. Et donc, j'ai écrit un 20 minutes. Donc, 20 minutes, on va dire, c'est le premier moyen format. Tu vois, dans le stand-up, d'abord, tu fais des 5-10 minutes. Ensuite, tu as des moyens formats, c'est 20 minutes, 30 minutes. Et ensuite, tu as le spectacle d'une heure qui est un peu l'accomplissement, tu vois. Ce sont des exercices différents. Mais justement, moi, j'aime beaucoup le long format ou le moyen format parce que ça me permet, tu vois, de pouvoir comme ça développer des sujets. Et donc, j'ai écrit un premier 20 minutes. Alors, ça parlait pas que de mon grand-père, mais ça parlait de la question de la folie. Il y avait mon grand-père dedans. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, il faut que je défende ça sur scène. Et le fait d'avoir ce spectacle à défendre, c'était 3 fois 20 minutes avec 2 autres artistes. Ça a été ce qui m'a vraiment dit, ah ouais, là, en fait, j'ai envie de faire du stand-up parce que j'ai des choses à dire et c'est une chance incroyable de pouvoir les dire.
Futur spectacle, Caméléon ?
Caméléon, futur spectacle. Mon premier spectacle d'une heure, parce que j'ai fait plusieurs spectacles de 20 minutes, plusieurs spectacles de 30 minutes. Là, c'est mon premier spectacle d'une heure. Ça va être à la Grange Comédie, mensuel. Est-ce que le spectacle est complètement fini d'être écrit? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il y a toujours un doute jusqu'à la dernière minute? Oui.
Ouais. Là, je vais te dire, ce soir, par exemple, je fais un 30 minutes. Et ben après notre interview, je vais sans doute me mettre d'accord sur la forme définitive que ça va prendre parce que j'en sais rien encore. Et peut-être même que juste avant la scène, je vais me dire « Ah non, ça j'en parle pas et ça j'en parle ». Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc on sait jamais. Mais en fait, c'est tu vois, le stand-up, c'est toujours… Jamais une représentation n'est la même. Parce que même si tu fais le même texte, parfois tu vas changer l'énergie.
Bien sûr. Alors
tu vas changer l'ordre. Et en vrai, moi, à chaque fois, j'essaye, et je suis pas le seul, et il y a une vraie créativité aujourd'hui dans le stand-up marseillais, et je suis très heureux de travailler avec plein de gens, où il y a une créativité, où on se met en danger, on teste des choses, on teste beaucoup, on écrit beaucoup, et ça, c'est ce qui fait le plaisir de ce métier, sinon tu t'ennuies si tu fais tout le temps la même chose.
On n'a jamais aussi le même public.
Ah, ça, hyper important. On n'a jamais le même public, et ça joue énormément. Il faut s'adapter au public. connecter avec le public. Hein. Le but, c'est pas de, d'arriver, de faire son truc et juste de recevoir des applaudissements. Non, c'est de partager quelque chose, de créer un lien avec des gens. À la fin, on discute, on boit des coups. C'est ça aussi, hein, tu vois, là, dans le milieu des comédie clubs, bah, souvent, ça arrive de boire des coups avec des gens du public. Pas tout le temps, mais quand même, tu vois, bah, nous-mêmes, on s'est rencontrés après une scène. Et ça, c'est toute une partie de ce métier que moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est un échange, c'est un lien et tu sens que ça fait du bien à tout le monde.
Honnêtement, effectivement, je vous ai vu sur scène. Vous avez énormément de potentiel et vous faites, encore une fois, énormément rire. Vraiment.
C'est gentil.
Et en plus, ce n'est pas pour être sympa. Hein. C'est vraiment la vérité. Allez, on rappelle aux auditeurs, comment peut-on vous voir sur scène?
Eh bien, il faut déjà me suivre sur Instagram.
Allez sur les réseaux sociaux. Voilà.
Je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas très fort pour me faire connaître, mais maintenant c'est mon métier, donc il faut que j'y passe par là. Je vais donner mon Instagram, s'il vous plaît, où que vous soyez, si vous l'écoutez, notez-le. C'est Raphaël Cohen-du-bas. Raphaël Cohen-du-bas. Je communique sur toutes mes actualités sur ce réseau social-là. Je serai en spectacle tous les mois à partir de septembre à La Grange Comédie. Le spectacle s'appelle Caméléon. Vous pouvez prendre les places sur Billets Réduc, sur le site de La Grange, sur mon Instagram. Et ensuite, je joue entre 3 et 5 fois par semaine dans différents comédie clubs, principalement au Garage Comédie, également au Vieux Port, au comédie club du Vieux Port, où je joue à peu près 3-4 fois par mois. Également, parfois dans d'autres comédie clubs aussi, à la Place des Canailles, à l'Ardu. Donc voilà. Et je suis sûr que si vous allez voir du stand-up, à un moment donné, vous me croiserez. Et voilà. Et allez voir du stand-up en général, parce qu'on en a besoin.
Un rêve de scène?
Un rêve de scène. En fait, je suis de plus en plus libéré sur scène, mais j'aimerais arriver à un moment où je suis tellement libéré que je suis en total impro. Et que ça se passe bien, dans une belle salle, avec des gens qui rentrent totalement dans mon délire. C'est déjà un peu le cas, mais je sens que je peux aller encore plus loin, tu vois. De libérer le chaman à un moment donné et de les emmener dans un délire. Je sens que ça commence à arriver, mais je suis encore un peu bloqué parfois. Donc, c'est ça que je cherche.
Est-ce que vous avez d'autres objectifs? Le cinéma, la télé?
Pas trop. En fait, j'y réfléchis pas. J'y réfléchis pas à tout ça. Je pense que ça viendra pas. Mais je cherche pas... Je cherche à pouvoir vivre de mon art, à pouvoir toucher des gens. Parce que c'est sûr que si tu joues devant personne, eh ben, ça vaut pas le coup. Par contre, le star system, etc., c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est même peut-être quelque chose qui me fait peur. Moi, j'aime bien. Moi, ma journée, c'est beaucoup me balader dans la rue et je peux rester 10 minutes sur un cerisier en fleurs avec les larmes aux yeux. En fait, c'est ça ma vie, tu vois ce que je veux dire. Si je fais du stand-up aussi aujourd'hui, c'est parce que ça me laisse du temps pour me vagabonder. On y revient, pour kiffer la vie, pour aller discuter avec un petit vieux sur un banc qui va me pendant une demi-heure, et c'est ce petit vieux-là qui va me donner une blague que ensuite je vais faire sur scène, pour aller me baigner à la mer, pour aller, tu vois, faire du sport. Et du coup, je veux pouvoir continuer à vivre comme ça, un peu à l'abri des regards.
Quelle est votre plus grande fierté aujourd'hui?
Déjà, d'avoir fait... tous ces petits spectacles de stand-up, c'est une belle fierté. J'ai aussi écrit un mémoire de recherche en sciences sociales, dont je suis pas peu fier, c'était dur d'écrire ce truc, mais je l'ai écrit 210 pages. C'est à la bibliothèque des sciences sociales, il existe ce mémoire, à la Vieille Charité, vous pouvez le trouver. Sans doute personne l'a lu, mais c'est pas grave. Ça, c'était une belle fierté parce que c'était aller au bout de ses études et ouais.
Ouais. C'est beau. Et justement, imaginons que vous écrivez un livre considéré comme un chef-d'œuvre. Quel serait le mot de la fin?
Waouh. Le mot de la fin, ce serait... C'est quand on se rend compte que l'on n'est rien, que l'on peut être tout.
Waouh. Raphaël, merci beaucoup, voilà, pour ce moment.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous ce soir. Et évidemment, on vous souhaite beaucoup de belles choses pour la suite. Et n'hésitez pas, les amis, allez le suivre sur Instagram, Raphaël Cohen. Merci encore.
Merci
Raphaël
pour votre
Cohen.
Invitation, Sabrina.
Allez, encore plein de belles choses. Merci mille fois. Et n'oubliez pas, les amis, peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas de bon cœur, vous ne valez rien. Bonne soirée à tous.
Tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait de cadeaux. J'parle à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire. J'ai encore deux trois trucs à faire ici bas avant qu'on se rejoigne là-haut. Jamais je ne pourrai les imiter, mon seul trésor c'est ma dignité. La rue, la mort sont de malédiction, et l'être humain une calamité. Je teste tous les démons qui m'habitaient, tant que ma vie n'est pas vanillée. Mon potentiel n'est pas limité, y'a que le ciel qui peut l'abriter. Grandi dans la merde, on m'a toujours traité comme un insecte moi. Cette vie n'est qu'un test et je n'ai aucune réponse. En face ils ne m'aiment pas, je peux pas leur apprendre à aimer. J'ai tout ce qu'il me faut, pourtant cherche qu'il me manque. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait de cadeaux. J'parle à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire. J'ai encore deux trois trucs à faire ici bas avant qu'on se rejoigne là-haut. J'ai peur de personne, peur de demain, pas de l'être humain et de son venin. Comme tous les miens, j'suis mon chemin, on m'a rien légué, pas de parchemin. J'ai un truc à dire, j'passe pas par quatre chemins. Le peu que j'l'ai de mes deux mains, j'me rends compte que j'suis chanceux. Je suis chanceux à la la. On avait rien à la base. À la la, à la la. J'ai même failli rejoindre la France à la nage. À la la, à la la. À la la, à la la. Aujourd'hui on fesse toi. À la la, à la la. Hey. Tellement de problèmes on se téléporte. Ici, il pleut des balles à la météo. Ma vie en mono. Je veux l'entendre en stéréo. Moi, j'ai perdu des frères, c'était mes. J'ai tellement de questions dans ma tête que je vais sûrement tout céder à la haine. Le soir je me sens mal, je ne dors pas, j'analyse. Grandi dans un monde parallèle où tout ce que je vois passer par ma fenêtre en vrai n'est pas si facile à vivre. M'en sortir je voulais moi, referme tes volets moi. J'y crois dur même si la vie nous a pas fait de cadeaux. J'vois à mes morts tous les soirs, ils vivent dans ma mémoire. J'ai encore deux trois trucs à faire ici bas avant qu'on se rejoigne là-haut.